tous les cinémas du monde sur RFI. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéret.
Pouvons-nous faire autre chose qu'utiliser le cinéma, cette arme d'émotion massive, pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences?
Est-ce que le cinéma peut changer le monde?
Je déclare la 75e Festival du Cannes ouvert.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Nous avons retrouvé nos quartiers habituels sur le pavillon des cinémas du monde à Cannes, donc juste en surplomb de la plage du Majestic. Cannes a retrouvé ses habits de lumière après 2 années chaotiques entre annulation et report. Et dans cette joie des retrouvailles, nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau nos partenaires, les sections parallèles du Festival de Cannes, Semaine de la Critique et Quinzaine des réalisateurs. Ava Kahn, bonjour.
Bonjour.
Pour vous, c'est une première à ce micro et pour cause, vous avez pris la succession de Charles Tesson et présidé désormais aux destinées de la Semaine de la Critique. Paolo Moretti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toujours le directeur artistique de la Quinzaine des réalisateurs et nous livrez cette année votre dernière et flamboyante sélection. Avec vous deux, nous allons bien sûr parler de ces sélections, de l'état du cinéma mondial, de la grande question ici, de l'avenir du 7e art. L'ascension inexorable des plateformes le condamne-t-il définitivement? Quel avenir? Quel espoir, sachant que la fréquentation en salle a chuté assez vertigineusement pour cause de pandémie. Vaste programme. Mais alors, tout d'abord, avant de commencer, vos impressions de ces quelques premiers jours, Ava Kahn et Paolo Moretti, est-ce que les festivaliers sont revenus? Est-ce que les salles sont pleines? Qui veut commencer?
Ah bah oui, moi c'est Ava. Ça qui me réjouit absolument. Hein. On a commencé depuis 2 jours à la Semaine de la Critique à présenter les films. Et effectivement, il y a un engouement, il y a une envie, il y a une gourmandise incroyable de la part des spectateurs. Et voilà, un plaisir, je crois, de retrouver la salle et un plaisir de découvrir des premières œuvres et pas que, évidemment, tout le cinéma du Festival de Cannes.
Et vous, Paolo?
C'est la même chose, voilà, qu'on ressent à la Quinzaine. Les salles sont pleines. Il y a eu quelques soucis
avec la billetterie.
Commencer avec la billetterie, mais qui sont en voie de résolution. Mais voilà, ce qu'on ressent dans la salle, c'est vraiment surtout et avant tout le désir de retrouver ces rituels, de découvrir un film pour la première fois, de rencontrer des équipes. Et il y a voilà cette énergie et cette tension là. On la retrouve à pleine puissance cette année.
Alors cette cérémonie d'ouverture dont on entendait un peu dans le générique quelques extraits, la cérémonie d'ouverture de l'officiel avait donné le ton d'une très étonnante en fait 75e édition où plus que jamais le festival fait un peu le grand écart entre les paillettes, le business et l'écho du monde. En témoigne le discours du président du jury, Vincent Lindon.
C'est la fonction du Festival de Cannes, c'est sa gloire, c'est cette ligne inflexible, artistique et citoyenne, qui rend nécessaire ce qui, sans cela, serait obscène. Projeter des images radieuses en surimpression de celles abominables qui nous parviennent d'une Ukraine héroïque et martyrisée. Ou bien encore, ensevelir sous la mélodie du bonheur les massacres silencieux qui s'abattent sur le Yémen ou le Darfour. Quand l'actualité nous écrase et que le découragement me gagne, je me demande si nous sommes pas en train de danser sur le Titanic. Peut-être alors, si nous prêtions l'oreille, entendrions-nous au milieu du vacarme des empires et des nations, comme un tendre et faible bruissement d'ailes, le doux murmure de la vie et de l'espoir. Voici venu le temps des artistes, des cinéastes responsables, pour nous porter, pour nourrir notre imaginaire et nous aider à nous répéter en nous-mêmes chaque fois que nous le pourrons, en hommage à tous ceux qui souffrent et qui se battent dans le monde, être vivant et le savoir.
Voilà, Ava Kahn, Paolo Moretti, le discours du président du jury cette année, Vincent Lindon, un discours vraiment très empreint de gravité.
Très puissant,
très empreint de gravité. Vous la sentez aussi, vous, cette gravité, tous deux, dans vos sections?
Forcément, et même, je pense qu'on a de toute façon, toutes sections confondues, des pensées à la fois pour nos amis chinois qui sont actuellement bloqués à cause de la pandémie, mais aussi évidemment pour le peuple ukrainien. Et le président ukrainien a d'ailleurs est apparu sur l'écran lors de la 75e de l'ouverture. Donc oui, les états du monde et l'état du monde en règle générale concernent évidemment les cinéastes. Et je crois qu'il n'y a pas plus belle réponse de toute façon à tout ça, dans ce bruit, dans ce chaos, que de répondre par l'art, que de répondre... Par le cinéma. Donc là, il y a un vrai geste, il y a un vrai positionnement.
Tout à fait. Enfin, c'est évidemment très difficile. Voilà, d'un côté, on est un peu déchiré entre la joie justement d'être là, de retrouver une certaine normalité progressive, voilà, qui se laisse apercevoir, et de l'autre côté, évidemment, une conscience et un dialogue permanent avec la conscience des événements et de la dramaticité des événements qui sont en cours en ce moment. C'est quelque chose, voilà, qui travaille le festival. Je pense que en avoir conscience, c'est déjà faire quelque chose, n'est pas en faire abstraction et avoir toujours présent quand même ce qui est en train de se passer. Ça va être l'une des notes de cette édition, inévitablement.
Paolo Moretti, Sophie le disait tout à l'heure, la Chine est quasiment absente de ce festival, pas de festivalier chinois et aucun film à ma connaissance programmé pour ce
60. Dans la sélection court-métrage de la semaine de la critique, il y a deux jeunes cinéastes chinois, une chinoise et un chinois qui présentent un film et nous avons Shu Li Wang qui est ici justement, qui vient d'arriver donc avec un grand bonheur.
Donc c'est presque un miracle.
Complètement, on peut dire ça comme ça, ouais.
Et vous, Paolo Moretti, je crois qu'un film chinois était prévu pour la quinzaine cette année.
Tout à fait. On savait voilà, que ça allait être difficile et les temps étaient déjà imprévisibles parce que la situation était déjà instable au moment où nous avons sélectionné le film. Au moment de la conférence de presse, nous n'avons pas pu l'annoncer justement à cause de cette instabilité, mais j'ai souhaité voilà, donner au film toutes les chances possibles. Donc on a gardé un créneau pour le film en espérant que les choses avancent. Mais voilà, la même semaine, en fait, il y a eu un durcissement de conditions et un nouveau lockdown très rigide,
un confinement, très rigide,
qui a bloqué pratiquement tous les bureaux, tout a été bloqué et le film n'a pas pu être prêt à temps.
Alors curieusement, on parlait de gravité, de l'écho du monde. Alors curieusement, en un sens, cet écho du monde, on l'entend dans le film d'ouverture de la quinzaine, Paolo Moretti, L'envol de Pietro Marcello. C'est un film en même temps très poétique. Ça se passe juste au lendemain de la Première Guerre mondiale et le film s'ouvre d'ailleurs par des images d'archives de soldats. Pourquoi vous avez choisi ce film-là pour ouvrir votre sélection ?
Déjà parce que je trouve que Pietro Marcello représente l'une des voix les plus intéressantes et visionnaires du cinéma contemporain, qu'il a une écriture qui lui appartient complètement et qu'il développe depuis plusieurs années. Il a cette relation incroyable, magique avec les images d'archives. Il parle de lui-même comme d'un archiviste. Je suis un archiviste, voilà, il me dit. Donc il aime beaucoup voilà, aller chercher ces images-là et les mettre en dialogue avec des images extrêmement contemporaines qu'il filme maintenant, toujours en pellicule évidemment, il a voilà, cette lien avec la matière. Mais j'ai trouvé justement en lui quelque chose qui me tient très à cœur, c'est une idée de cinéma totalement intemporelle, qui ne fait pas de distinctions, il ne fait pas de films d'époque, il fait des films extrêmement contemporains, mais avec une matière qui est extrêmement ancienne aussi. Et il fait dialoguer ces deux dimensions, la contemporanéité du récit et de l'histoire sur laquelle se base L'envol, et en même temps voilà, des images qui viennent d'un autre temps, et qu'il ne m'en voudra pas si je parle de son film. je peux évoquer en même temps la talente de Jean Vigo et Cendrillon de Walt Disney. Enfin, il y a un joli dialogue entre ces matières-là et surtout une très grande liberté. Il ose justement de figures qui sont extrêmement risquées, mais qui finalement sont tellement fluides et opèrent cet enchantement que voilà, j'ai adoré partager lors de la soirée d'ouverture avec le public.
Alors justement, deux mots de l'histoire de ce film, L'envol, hein, et quel plus beau titre d'ailleurs, pour lancer une sélection. Raphaël, joué par Raphaël Thierry, est un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Il arrive dans une ferme tenue de main de maîtresse par une certaine Madame Adeline, c'est Noémie Lvovsky. Cette Madame Adeline, d'ailleurs, s'est occupée du bébé hein, de ce soldat, Juliette, puisque la mère, la femme de Raphaël, est morte tragiquement.
Je vois Marie. Elle est en paix. Elle veille sur toi. Elle veille sur Juliette. Elle me dit... Occupe-toi du pauvre Raphaël, elle dit. Pauvre Raphaël, que tu feras quelque chose de tes mains. Montre-moi tes mains. Tu as de l'or dans les mains. Ces mains vont rapporter de l'argent. Tu resteras ici, avec Juliette. Elle grandira ici.
Voilà, un extrait de L'Envol de Pietro Marcello, film d'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Pietro Marcello qui devait être avec nous ce samedi, mais un cas de force majeure l'a empêché de participer à cette émission. Alors par chance, moi je l'avais rencontré au tout début du festival et je lui avais demandé pourquoi il avait décidé de venir tourner en France, puisque lui il est italien. D'ailleurs il a appris le français hein, pour le tournage. Et il adapte donc en France une nouvelle d'Alexander Green. Pietro Marcello, bonjour.
Bonjour à vous.
L'Envol, votre nouveau long-métrage, fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Déjà, que représente cet événement pour vous?
Je crois que c'est un bon atterrissage parce que je viens de l'Italie. Je fais toujours les films en Italie et je me suis trouvé à l'étranger pour faire un film. Et c'est toujours un hasard. J'ai eu la possibilité de travailler avec une équipe extraordinaire et les films à Cannes.
Oui, parce que vous le dites, hein, Pietro Marcello, vous êtes italien, mais votre nouveau film, L'Envol, est un film tourné en France avec des acteurs français. Pourquoi la France?
Pour question familiale, je me suis trouvé en France et j'ai vu proposition des films après Martinine et je suis tombé en amour avec cette nouvelle d'Alexander Green. Et pour cette raison, nous avons commencé à développer les films avec Amélie Maud et Maurizio Braucci. Et après un an, j'ai déjà sur les tournages. Dans les mêmes moments, j'ai commencé à apprendre la langue française. C'est toujours un hasard à faire le cinéma. J'ai fait le maximum pour faire un film international, mais le film, c'est complètement français.
Le film se situe en France juste après la Première Guerre mondiale. Vous balayez plusieurs années de manière très belle, très elliptique. Ça ressort de la fable.
Oui, parce que c'est les films, la nouvelle, c'est une nouvelle ancienne. Et nous avons modernisé cette nouvelle. Et je crois que c'est un film complètement féminin.
Si tu es une fille... Sois mille fois plus vaillante qu'un garçon.
Si tu es une fille,
ne tremble surtout pas face au dragon.
C'est un film effectivement féministe, porté par des personnages de femmes très forts. Noémie Lvovsky incarne une veuve, en tout cas une femme qui n'a plus son mari, qui dirige une main presque de maître, hein, une ferme, qui est en marge du village, qui est mal considérée en fait par les villageois parce qu'elle vit libre.
Parce que dans la fermette, nous avons créé un cours des miracles. Et c'est compliqué à dire, c'est un film féminin ou féministe. C'est un film d'une famille moderne.
Oui, effectivement, c'est un film qui donc s'inscrit, on est dans la première moitié du XXe siècle. D'ailleurs, vous ouvrez le film, Pietro Marcello, par des véritables images d'archives. On voit des soldats.
Oui, parce qu'il commence avec la fin de la Première Guerre mondiale. Mais le monde, c'est toujours dans la guerre. Parce que les films, c'est avec les costumes. Les films, c'est aussi très moderne, je crois.
C'est un film, effectivement, en costume, mais dont le propos est très moderne. On le disait, il y a cette famille qui vit un peu en marge, en tout cas, qui est rejetée par les villageois, mais que l'on sent très, très libre, où on pratique les arts, la musique, la peinture.
Oui, parce que c'est plus parce qu'ils ne sont pas acceptés dans les villages et on va créer à l'intérieur de la fermette une mutuelle sucure.
Une mutuelle surcours?
Oui, voilà, et c'est ça. Et comme ça, nous avons cette communauté. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les individualismes, l'individualisme très fort de notre temps, je crois que c'est très important.
Et Pietro Marcello, à un moment, vous parliez du hasard, que tout se fait par hasard. J'ai l'impression que dans votre ligne professionnelle, enfin artistique aussi, il y a beaucoup de hasard au départ. Mais vu que vous aviez été élève des Beaux-Arts de Naples, c'est ça?
Oui, mais je jouais toujours avec l'hasard, parce que peut-être que j'aime les dangers. Et je suis habitué à jouer les films dans une manière pas confortable.
Voilà, donc Pietro Marcello, le réalisateur de L'Envol. Parlons de l'ouverture de la semaine de la critique.
Elle aussi politique.
Elle aussi politique, vous allez nous en dire quelques mots quand même, Ava Kahn, parce que c'est un premier long métrage, évidemment, oui. Puisque la semaine de la critique, c'est une sélection dédiée au premier et deuxième long métrage. Il n'est pas signé pourtant d'un inconnu, puisque c'est l'acteur Jesse Eisenberg, vu entre autres dans The Social Network de David Fincher, qui passe derrière la caméra. Un film très musical, le titre c'est When You Finish Saving the World.
Quelle promesse déjà, enfin, en tout cas quel élan ça donne aussi.
Et alors en quoi c'est un film politique ?
Eh bien écoutez, c'est un film qui fait un double portrait, à la fois d'un adolescent qui est une petite vedette sur les réseaux sociaux, un chanteur qui est moins vedette dans son lycée, et de sa mère qui travaille dans un centre social, a été très politisée dans sa jeunesse, une militante politique, plutôt démocrate, enfin voilà, plutôt de gauche. Et lui se pose, cet adolescent, la question de pourquoi le monde autour de lui tourne de cette manière, pourquoi il faut être politique et avoir une conscience politique alors qu'elle l'a quitté, ce personnage. Donc c'est très intéressant à ce niveau-ci. Il y a un vrai dialogue qui se crée et je trouve que Jesse Eisenberg a une vraie vision, une façon d'introduire ces deux personnages de façon très élégante. Oui, voilà. Ça m'a fait penser au cinéma de Kelly Reichardt, pour tout vous dire. Voilà, je trouve qu'il y a cette sensibilité et donc c'est aussi.
Oui, vous faites le point avec la quinzaine, puisque Kelly Reichardt vient de recevoir le Carrosse d'Or.
A joué d'ailleurs dans un film de Kelly Reichardt qui s'appelait Night Moves, qui était aussi un film très politique. Donc je sens bien que chez cet acteur, il y a, en tout cas, le monde le concerne, la politique l'intéresse et. À travers à la fois un teen movie, un film social, un drame familial, il arrive à nous parler de notre conscience politique à nous et de l'interroger.
Puis ça vous a permis aussi, donc en ouverture de la semaine, Ava, d'avoir des stars, non, aussi ?
Absolument.
Julianne Moore
était sur la scène du Miramar, c'était délicieux.
Qui joue donc la mère dans When You Finish Saving the World. Et puis le jeune Finn Wolfhard, c'est l'un des héros de la série Stranger Things. Et dans la vie également, c'est un chanteur, le chanteur du groupe de rock Calpurnia, dont on va écouter ce titre, City Boy. À l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes toujours avec nos deux invités, Ava Kahn pour la semaine de la critique, Paolo Moretti pour la quinzaine des réalisateurs. On lance comme ça ces deux éditions. Nous sommes encore au tout début de ce 75e Festival de Cannes. Alors, on parlait des deux films d'ouverture, L'Envol pour la quinzaine, When You Finish Saving the World pour la semaine. Dans leur genre, ce sont tous deux des films qui ont pour caractéristique de parler de la famille, en fait. Ouais. La famille qu'on se choisit, la famille recomposée pour L'Envol. Un lien très fort mère-fils.
Absolument.
Pour When You Finish Saving the World.
Qu'on essaye de reconstruire d'ailleurs, parce que c'est ce dont parle le film, de ce rapport dysfonctionnel, justement de ce décalage de vision qu'on peut avoir du monde quand on est un adolescent et quand on est une femme de 50 ans.
C'est un thème qu'on retrouve, c'est un thème qui irrigue vos sélections respectives.
Ah ouais, moi vraiment, c'est le constat que j'ai tiré, mais alors on ne l'a pas décidé, évidemment, de tirer ce fil-ci, mais c'est vrai que globalement, les premiers films et les deuxièmes films parlent beaucoup de la famille, des liens, de comment les recréer, de rapports entre les différentes générations. Ça a été vraiment assez étincelant à chaque fois parmi les films. Et c'est vrai que la compétition de la semaine de la critique parle beaucoup à la fois des rapports mère-fille, père-fils, mère-fils. Enfin voilà, oui, c'est vrai.
C'est peut-être le confinement qui a recentré les artistes. Et vous Paolo.
Il y a évidemment des films dans la sélection qui évoquent ces questions. Je pense à Un beau matin de Mia Hansen-Løv. Évidemment, enfin
c'est le cœur de son cinéma.
Absolument, ouais. Voilà, enfin la question autobiographique est au cœur de son cinéma, avec les libertés évidemment qu'elle peut prendre. Mais il y a ce film-là, il y a Ghost Creature de Celia Davis et Anna Rose Olmert aussi. C'est un film autour de liens, voilà, familiaux et de façon plus étendue de liens secrets d'une communauté qui est une forme de famille aussi. Il y a effectivement ce sujet, je ne sais pas si c'est dû au confinement, mais en effet, ça revient au-delà des premiers et deuxièmes films.
Mais c'est vrai que beaucoup de films cette année ont été tournés après le début de la pandémie. Et donc, on peut se dire qu'effectivement, dans les scénarios, dans la façon d'aborder un projet de cinéma, enfin, à la compétition aussi, il y a beaucoup de films autour de la famille. Alors, on ne sera pas surpris quand c'est Arnaud Desplechin qui fait Frères et Sœurs, mais par exemple, Les Huit Montagnes, qui est un film italien, on n'a pas tout vu, bien sûr, mais c'était le début... C'était sur la famille. Le film de Serebrennikov, c'est sur l'histoire d'un mariage justement qui échoue et se transforme en tragédie. Et puis, bien évidemment, le James Gray tourne autour de ça.
Je crois que l'humain vraiment est au centre de tout là. Oui, effectivement. Oui.
Mais je peux continuer aussi avec Les années Super 8
d'Annie Ernaux, qui donc avec son fils.
David
construit un film à partir de leurs archives familiales.
Exactement. Enfin, c'est un film extrêmement surprenant avec cette unicité justement du matériel qui est son propre archive Super 8 avec lequel elle parle, elle dialogue avec un texte justement qui surgit de la vision de cette image, qui surgit de la vision de ces images et qui construit une narration qui est aussi au cœur de son œuvre.
Mais c'est l'un des événements de la quinzaine, Annie Ernaux étant l'une des grandes plumes, des grands écrivains françaises de l'époque.
Tout à fait, on a vraiment hâte de le montrer lundi.
C'est un film très particulier parce qu'on pourrait se dire une soirée diapo chez les Ernaux, est-ce que ça va être vraiment passionnant? Et en fait, déjà, ces images sont superbes. On a l'impression qu'elles ont été faites justement pour être projetées sur un immense écran. Je crois qu'elles ont été faites par l'ex-mari d'Annie Ernaux. Il avait un vrai talent. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle se fait presque sociologue des années 80 dans le film.
Comme dans plusieurs de ses œuvres, en fait, c'est justement ce don qu'elle a de transformer son image personnelle, son autobiographie dans une histoire collective.
Elle raconte presque une famille moyenne, si je puis dire, des années 80. Comment on partait en vacances, ce qu'on faisait au quotidien, à quoi ressemblait l'appartement.
Tout à fait. Et je pense que il y a énormément de références qui pourront rentrer en résonance très très forte avec les vécus de chacun, parce que malgré sa notoriété mondiale en ce moment, justement. Des voix les plus importantes de la littérature contemporaine, mais son histoire et sa vie sont tout à fait accessibles, dans le sens que je pense qu'on partage à la fois les histoires, mais aussi les objets, les couleurs, les situations. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement beau dans la vérité, en fait, de la matière qu'elle a utilisée pour faire les films et presque tout ses livres.
Famille aimante, famille dysfonctionnelle, voire modèle de famille criminelle, j'ai envie de dire. Je pense à Dalva, premier long métrage d'Emmanuel Nicot à la Semaine de la Critique. Ava, je sais que vous l'avez présenté, c'était une présentation très émouvante,
comme le film quand nous l'avons vu avec le comité de sélection. C'est vrai que
c'est un film
ça
coup
fait
de
partie
point.
Des ouais, coup de poing, mais qui n'est jamais tire-larme. Et c'est sa grande qualité, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas la matière pathos, elle n'en fait pas du tout un artifice. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été abusée par son père. Et le film commence justement avec l'arrestation du papa et comment cette jeune fille va être dans un centre, un foyer. Elle a 12 ans et elle va comprendre ce qu'elle a vécu, mettre des mots en fait sur ce qu'elle a vécu, parce que On se le dit pas comme ça parfois, mais les enfants ont quand même du mal à mettre des mots. Et l'inceste n'est pas un mot à 12 ans qu'on peut facilement concevoir, comprendre. Et donc voilà, c'est tout le récit d'apprentissage et de désapprentissage de ce personnage qui est absolument sublime, bouleversant. Et voilà, elle a une élégance d'écriture, Emmanuelle Nicot, qui nous est vraiment allée droit au cœur. Elle travaille avec des jeunes comédiennes qu'elle a trouvées en casting sauvage. Donc voilà, c'est des vraies révélations. Et il me semblait très important aussi de libérer cette parole-là et libérer ce regard-ci.
Emmanuelle Nicot.
L'histoire de Dalva, en effet, c'est une jeune fille qui a 12 ans, mais qui se vit comme une femme, qui s'habille, qui se maquille comme une femme, et qui, bien qu'elle vive une relation incestueuse avec son père, pense que c'est une relation amoureuse. Et pour supporter l'insupportable, Dalva, c'est quelqu'un qui s'est construit complètement sur un déni qui est tellement puissant qu'en fait, elle a accepter cet inceste et que dans sa tête elle a transformé cet inceste en une histoire d'amour. C'est ce qu'elle se raconte en tout cas. Et tout est inversé en fait dans sa tête. Et à partir du moment où le film commence au moment où le père est arrêté et où Dalva est placée dans un foyer, on va rapidement comprendre que pour elle, ses bourreaux, c'est la police, c'est les éducateurs, c'est le juge. Et ce film y raconte comment progressivement en fait elle va sortir de ce déni.
Sans vous demander des détails, enfin, je ne sais pas comment on en arrive à traiter quand même un sujet qui est quand même effectivement très particulier, avec d'énormes, enfin, j'imagine d'énormes écueils que vous évitez, mais qui est quand même délicat, quoi. Mm-hmm.
Ça parle de l'emprise. C'est une thématique que j'explore beaucoup dans mes courts-métrages et dans ce premier long. C'est une thématique qui m'est assez personnelle. Il y a déjà eu une immersion que j'ai faite dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents pour mon précédent film, où j'ai passé 15 jours et là-bas, en fait, ce qui m'a frappée, c'est que j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui avaient été placés pour cause de maltraitance avérée auprès de leurs parents. Et en fait, ces enfants, mais quasi unanimement, faisaient bloc avec leurs parents contre la justice. Et leur souffrance, elle venait plus du fait d'être placés que d'être séparés de leurs parents. Et c'était un déni, voilà, très collectif. Et ça, waouh ! Je me suis dit, c'est fou, en fait, que ça touche autant d'enfants. Et je pense que c'est aussi parce qu'ils sont des enfants que ça les touche. Parce que c'est des enfants qui grandissent aussi, enfin, dans cette construction, dans cette emprise qui est très, très dure. C'est très dur de se détacher d'une emprise parentale, je pense. Et puis, il y a eu une autre histoire qui m'est arrivée, qui est arrivée à moi, qui ne me concerne pas, mais qui est arrivée dans ma vie... Il y a quelques années aussi, j'ai une amie dont le père était éducateur spécialisé et en fait son travail consistait à aller retirer des enfants de leur domicile où il y avait ces domiciles dans lesquels il y avait des suspicions de maltraitance. Et un jour, on l'a contactée pour aller chercher une petite fille de 6 ans qui vivait seule avec son père et il y avait une suspicion d'inceste et il s'est retrouvé face à cet enfant qui n'avait que 6 ans et qui était extrêmement sexualisé et sensualisé aussi. Et cette petite, elle était dans une relation de séduction, en fait, avec lui. Et je n'ai eu que cette histoire, je n'ai pas eu la suite. Et puis de tout ça est née Dalva. Et je me suis demandé que serait devenue cette petite fille à 12 ans, à l'âge des premiers émois, à l'âge de la puberté. Et à l'âge où tous ces enfants, ils découvrent tout et où ils sont dans des jeux d'action ou vérité, c'est les premiers baisers. Qu'est-ce que serait devenue cette petite à cet âge-là ?
Emmanuelle Nicot, donc pour Dalva, un film éligible, Caméra d'or comme quasiment tous les films de la semaine de la critique et d'autres aussi en sélection à la quinzaine. Ce qui frappe aussi cette année, Elisabeth, c'est la présence de films du Maghreb et notamment de Tunisie. Et je sais que vous vouliez parler d'un des films que vous avez repéré, un des films de la quinzaine, c'est « Sous les figues ».
Oui, c'est un premier film de fiction d'une jeune réalisatrice, Erige Seiri. C'est très bref, unité de temps, de lieu. Ce sont des jeunes gens, beaucoup de filles, mais aussi des garçons, qui sont... je viens d'apprendre qu'on appelle ça des femmes camions. C'est-à-dire que tous les matins, un camion vient les chercher et les emmène dans cette espèce de verger géant de figuiers. Et donc, elles passent toute la journée dans cette J'avais envie de dire une prison à ciel ouvert. En tout cas, c'est un huis clos à ciel ouvert, hein, puisque les figuiers, c'est voilà, une frondaison très... elle ne voit quasiment pas le ciel. Et c'est un film absolument merveilleux parce qu'il nous montre comment ces femmes, en fait, ces toutes jeunes filles voient le monde, comment elles envisagent leur futur, comment... alors, elle parle beaucoup, évidemment, de l'amour et du mariage et des garçons. Et il y avait un sentiment de liberté extraordinaire. C'est-à-dire que je crois que depuis Yousry Nasrallah, et vous, je vois que vous opinez, Paolo Moretti, peut-être que vous avez un souvenir très vif de ce film qui a été tourné il y a une vingtaine d'années, une petite collection qui s'appelait « Tous les garçons et les filles de mon âge ». Depuis ce film égyptien, il y a 20 ans, je n'avais rien vu d'aussi frais, d'aussi spontané et d'aussi déstabilisant aussi, parce que ça va constamment à rebours des clichés.
Tout à fait, voilà, c'est vraiment ce qui nous a convaincus du film. Déjà, cette grande maîtrise, cette idée centrale d'unité de temps et de lieu qui est quasiment, voilà, une performance d'un artiste plasticien. Et en même temps, voilà, choisir de personnages qui, voilà, comme vous disiez, vont à la rencontre de tous les clichés, de toutes les idées reçues, de toutes les images et la rhétorique qui peut, voilà, qui peut arriver dans les médias traditionnels. Et là, c'est une image justement extrêmement moderne. Déjà, ce n'est pas une image urbaine, voilà, c'est vraiment la Tunisie rurale. Et on est, voilà, enfin, surprenamment et étonné de voir autant de modernité, autant d'autonomie, de lucidité de pensée, de revendication. Il y a quelque chose de très puissamment politique dans chaque geste, dans chaque échange de dialogue entre les personnages, une très grande sensualité aussi que les films portent et revendiquent aussi. C'est les discours qu'on aime faire avec les cinémas qui proviennent de continents, c'est celui-là, soit offrir le plus possible une image différente des idées reçues et des images qui s'auto-reproduisent et en provenance du continent.
Et il y a beaucoup de films tunisiens cette année, et chose merveilleuse, beaucoup de premiers films. Donc est-ce qu'il y a un printemps du cinéma tunisien ?
Je résiste toujours à généraliser de cette façon parce que chaque...
Je n'ai pas osé dire nouvelle vague tunisienne.
Il y a des printemps chaque année, voilà, de chaque pays. Enfin, l'année dernière, par exemple, c'était un printemps italien très intéressant que nous avions à la quinzaine. Cette année, en effet, on accueille deux films tunisiens. L'autre, c'est Ashkal, qui est justement un peu un contrepoint urbain par rapport à Sous les figues.
Un polar très noir.
Tout à fait. Terrifiant même par moments, mais génial et visionnaire et éminemment politique aussi.
Oui, parce qu'on voit des gens qui s'immolent. Voilà. Et il y a toute une enquête et un mystère sur cette vague d'immolation.
Tout à fait, et même ces immolations, il y a quelque chose, c'est pas si clair que ça. Mais justement, il y a cette liberté aussi de d'utiliser des codes du genre pour raconter une histoire extrêmement contemporaine. Et encore une fois, une sensibilité plastique pour moi. Enfin, formellement, le film est extrêmement fort, très impressionnant pour un premier long métrage par ailleurs, avec cette idée géniale, encore une fois, d'utiliser cet élément comme décor des énormes bâtiments en cours de construction, en construction pas finie, qui deviennent un personnage à part entière du film, et avec des séquences vraiment à couper le souffle.
Est-ce qu'il y a des nouveaux territoires, alors je parle au sens géographique, hein, enfin en tout cas qui sont explorés? Je sais qu'il y a un film du Soudan à la quinzaine, Le Barrage.
Tout à fait.
Peut-être qu'on peut en parler avant de passer aussi à la semaine.
Oui, c'est le film d'Ali Cheri, donc un artiste plasticien libanais qui tourne au Soudan. Par ailleurs, il expose ses œuvres à la Biennale d'art de Venise en cours maintenant. Il a reçu même un lion d'argent et il expose en même temps son film à la quinzaine des réalisateurs. C'est une fable visionnaire, encore une fois, et très politique sur la nécessité d'imaginer le plus large possible. C'est l'histoire de ces personnages qui partent dans les déserts qui est un lieu et un territoire de vision, justement, dans la tradition. Et ces personnages, justement, nous fait partager sa vision. je veux pas, voilà,
plus en dévoiler,
abîmer les mystères autour du film, parce que c'est vraiment ça. Mais il est porté d'un côté par ces séquences extrêmement fortes en termes d'image, et lié par voilà, un scénario auquel par ailleurs a collaboré Bertrand Brunello.
Et vous, à Vacaen, à la semaine, nouveau territoire à
défricher. Je voulais juste d'abord rebondir sur le cinéma tunisien qui effectivement est très en forme. Et à la semaine de la critique, on a décidé de lui rendre hommage aussi à travers notre présidente du jury, Kauter Ben Ania, dont j'admire infiniment le cinéma. Donc voilà, évidemment, on a fait des choix. Les territoires sont très différents et moi, mon éveil là, j'allais dire pour cette année, c'est vraiment le cinéma colombien. On s'est pris une claque monumentale en découvrant le travail de Andrés Ramírez Pulido, le réalisateur de La Jauria, qui en français veut dire la meute, et qui là nous emmène lui aussi dans un genre de huis clos, mais en extérieur, au cœur de la forêt colombienne, dans un centre de redressement pour mauvais garçons. Et ces mauvais garçons vont y apprendre donc à devenir meilleurs. Et je trouvais le film très intéressant parce qu'il déconstruit justement toute la masculinité toxique ou cette virilité dont on parle aujourd'hui beaucoup. Et je trouvais ça à la fois très tendre. Ça m'a fait beaucoup penser au cœur des ténèbres de Conrad en réalité.
Waouh, ouais. Donc là vous donnez vraiment envie à Vakaen. Et d'ailleurs, masculinité toxique ou rapport masculin-féminin, c'est aussi l'un des thèmes qui irrigue beaucoup de films dans toutes les sélections. On sent donc une grande vitalité du cinéma d'auteur, avec des propositions multiples et passionnantes. Mais dans le même temps, il y a une grande inquiétude de la part des professionnels, du marché, sur l'avenir du cinéma, puisque il y a eu la pandémie pendant 2 ans, donc c'est effectivement un coup dur, mais les spectateurs ne reviennent pas forcément dans les salles. Il suffit de regarder le box-office du début d'année, il y a 30% en moins par rapport à la même période en 2019, donc il y a beaucoup d'inquiétudes hein, à ce sujet. Enfin, après, c'est un vaste programme. Et par exemple, pour parler de La Quinzaine, il y a eu la lecture d'un communiqué de la SRF, la Société des réalisateurs de films, qui justement dit que l'avenir du cinéma, ce n'est pas sur les plateformes. Paolo Moretti.
Je pense qu'il faudrait inviter quelqu'un de la SRF pour parler du sujet.
Mais est-ce que vous êtes inquiet vous-même?
Forcément, dans le sens où on est toujours inquiet quand il y a des évolutions ou des changements. La question, c'est d'essayer le plus possible de les piloter et d'y faire face, plutôt que de rester juste inquiet. Enfin, c'est pas très productif comme attitude. Donc, moi, je ne sais pas. Depuis plusieurs années, dans des événements pour lesquels j'ai travaillé, on a essayé de dialoguer avec. C'est juste un nouveau mode de diffusion. Et qui peut être aussi un mode de production, mais en tout cas voilà, je n'ai vu à plusieurs reprises aussi, j'ai vu à plusieurs reprises que la coexistence est tout à fait possible. Mon parcours de cinéphile, par exemple, de cinéphile né dans une ville de Provence qui n'avait pas accès du tout au cinéma, s'est fait presque exclusivement sur des grandes VHS de 140 minutes,
des cassettes à la
télé, enregistrées pendant tous les fins de semaine à Fuori Orario, dans cette émission culte pour les cinéphiles. Donc du coup, il n'y a pas, je vois pas ça comme un antagonisme, et je pense qu'il y a un problème de logique. C'est-à-dire que quand il y a des acteurs économiquement si puissants qui rentrent dans un marché, il faut essayer justement d'établir des limites et essayer de construire une logique à leur présence, et qu'il y a une réflexion nécessaire à faire autour de la présence. Mais que s'y opposer ou voir les choses en ennemi n'est pas forcément ce qui va nous permettre d'avancer dans la réflexion.
Oui, Ava, vous aussi, votre cinéphilie, elle s'est fait beaucoup. Enfin, vous êtes évidemment une grande cinéphile, vous sélectionnez la semaine, mais on vous connaît aussi comme spécialiste de séries.
Hein.
Vous avez signé un livre sur Game of Thrones, donc vous ne pouvez pas le renier.
Justement, je suis une enfant aussi de la télévision, des VHS, de cette culture-ci, mais c'est vrai que je trouve que le cinéma vécu en salle, c'est une expérience incroyable. Et là, on le remarque bien quand même dans les salles cannoises qui sont absolument pleines partout. On voit comment la circulation des émotions, et ça me paraît très important. On a conçu l'affiche cette année de la 61e semaine de la critique justement pour rendre hommage aussi à la salle de cinéma, qui est pour moi un temple. Évidemment que le dialogue doit se faire avec les plateformes, et je respecte absolument l'offre, le catalogue, la beauté de ces films aussi qu'on trouve sur les plateformes. Et je pense qu'il y a évidemment un dialogue intelligent et il y a un travail en bonne intelligence à faire. Mais c'est vrai que là, on vit les choses en salle. Et donc, c'est assez capital et fondamental. Le cinéma, ça se vit aussi, voilà, avec la peau, avec ses émotions, avec tout ça. Et moi, je fais vraiment partie de cette génération que l'image touche au plus profond de sa chair, quoi.
Je suis par ailleurs exploitant, donc je dirige une salle depuis 2014.
Où ça?
C'était 6 ans les Concordes de La Roche-sur-Yon, et à partir de 2020, c'est les Grütli à Genève. C'est une salle art essai avec 2 écrans. Et c'est un laboratoire pour moi extrêmement intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire face à cette situation dramatique qui touche l'ensemble du parc des salles, pour retrouver ce lien avec une grande partie du public qui a été particulièrement affectée par la pandémie et qui a du mal ou qui peine, à revenir dans les salles. Et je suis persuadé qu'il y a des réponses possibles.
Alors c'est quoi justement ? C'est de faire venir les équipes, concevoir des événements,
oui, les vivants est essentiel. C'est-à-dire que la présence des équipes, des acteurs et cette rencontre-là, c'est l'un des moteurs. Mais je pense aussi, et j'ai une profonde foi dans la programmation. Et dans le fait que éditorialiser les contenus et dépenser beaucoup d'énergie et de moyens aussi dans communiquer ces contenus et essayer de persuader comment on fait pour un festival. Dans le sens où on parle des films, c'est on ça. Essaye de créer un désir. Et je pense que la création de ce désir, c'est l'un du front du combat pour que le public revienne dans les salles. Et j'ai plusieurs exemples positifs, mais c'est vraiment totalement empirique. Il n'y a pas une méthode parce que c'est un dialogue avec un public qui a des dynamiques qui sont propres de chaque salle, de chaque ville, du positionnement des autres salles concurrentes. Enfin bref, et c'est une réflexion vraiment personnelle que je pense chaque exploitant devrait faire par rapport à sa salle.
On parlait de politique justement en ouverture, mais moi je trouve que c'est un geste politique d'aller dans une salle de cinéma. En fait, c'est s'engager. C'est une démarche. C'est plus facile effectivement d'être devant sa télévision et d'activer sa télécommande et d'avoir tout le catalogue sous les yeux, mais justement d'aller, comment on choisit un film, comment il nous choisit aussi. On est là aussi, les critiques pour ça, les programmateurs, les festivals, pour justement créer cet élan. Et moi, j'y crois beaucoup. Je pense que bien sûr que l'événementialisation est très importante, comme quand on regarde un DVD et qu'on aime aller chercher les bonus, en fait, ramener ces bonus-ci vers la salle serait absolument délicieux. Mais je crois aussi vraiment qu'il faut, tu parlais de programmation, de dire comment... Où est-ce qu'on peut aller regarder des nouveautés? Comment ouvrir son regard ailleurs? Voilà. Et là, il y a des promesses.
Le terme anglais de curation, là, curator, en fait, le fait d'avoir une sélection, enfin, c'est aussi votre raison d'être à tous les deux, mais effectivement, qui là n'existe pas sur une plateforme, enfin, sauf les plateformes cinéphiles spécifiques, oui. Mais voilà, c'est pas Netflix, quoi. Ça, l'algorithme ne va pas le faire, effectivement.
Ça mérite un accompagnement, effectivement. Le cinéma, on peut y aller spontanément, mais c'est aussi bien de nous prendre parfois par la main pour nous dire qu'il y a cette beauté à découvrir en salle.
À l'officiel, la sélection officielle, il y a une sorte de veto, d'interdiction de présenter en compétition un film produit par une plateforme. Pour des questions, les exploitants refusent qu'une éventuelle palme d'or puisse ne pas être visible en salle, puisque les plateformes ne veulent pas respecter le fameux calendrier des médias et donc attendre X mois avant de pouvoir le diffuser. Est-ce que vous avez fait des choix? Alors, je pense que peut-être que ça se pose moins pour la semaine de la critique.
Ça commence à se poser de plus en plus, puisqu'effectivement, les plateformes
aussi
ont des envies de produire et des envies de produire aussi des cinéastes émergents. Donc ça commence...
Vous avez eu en sélection, vous avez eu des films de plateforme?
Absolument, absolument. Et ça, c'est effectivement une question qu'on se pose. Et nous, on reste plutôt actuellement sur la ligne qui est celle de l'officiel, qui est de plutôt présenter ses films hors compétition ou en séance spéciale. Voilà. Mais oui, ça va venir.
Et vous, Paolo, cette année?
Ça se pose pas trop couramment, je dois dire. Enfin, on n'a pas beaucoup de films qui ont un lien avec des plateformes ou des contrats déjà signés avec des plateformes. Mais la position qu'on a, par contre, c'est déjà de voir si on a un vrai désir pour le film et en discuter ensuite. Donc c'est... on s'appelle 15 réalisateurs, donc on reste d'abord sur le travail des réalisateurs, après on s'est avec le conseil d'administration, on avait discuté de cette éventualité, de éventuellement élargir la discussion au moment où une question s'est posée par rapport à un film qui aurait un compromis avec une plateforme. Sauf que la situation ne s'est pas produite, donc on a composé la sélection de façon extrêmement naturelle et tous les films que nous on présente sont a priori destinés à la salle.
Merci à Vakaen et Paolo Moretti. Vous restez un petit peu avec nous ? Vous avez encore 2 minutes ?
Absolument.
Évidemment, nous continuerons à rendre compte sur l'antenne de vos 2 sélections. Une pause musicale, un extrait des films en lice pour la Palme d'Or. En ce qui me concerne, c'est mon premier coup de cœur. On parlera aussi du vôtre, Elisabeth. Juste après ce titre, Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, c'est un titre que l'on entend beaucoup dans Armageddon Time de James Gray. Et je fais une spéciale dédicace, je me permets, à notre confrère des sports, Olivier Prompt. Pour terminer cette première émission cannoise, nous voulions quand même dire 2 mots hein, du début de l'officiel, de la compétition pour la Palme d'Or. Elisabeth, un petit point de ce début de compétition, peut-être votre coup de cœur, votre impression ?
Moi, je trouve que c'est un bon début de compétition. Voilà, les films se tiennent, mais il n'y a rien qui ressorte réellement, à part peut-être Armageddon Time de James Gray, hein, qui est votre préféré d'ailleurs.
James Gray, toujours une facture. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de classique. Il y a une forme de classicisme et une grande élégance. C'est un film autobiographique. Il se raconte sans doute. Enfant né dans une famille juive du Queens. On est en 1980. Il est dans une école publique. Il se lie d'amitié avec Jonathan, qui est un petit garçon noir, qui lui n'a pas les mêmes chances dans la vie. Ils vont faire un peu les 400 coups. Mais effectivement, il n'y a pas d'égalité des chances. Et même si Reagan, le discours ambiant hein, très des républicains de Reagan qui va finir par être élu, est à la méritocratie, on voit bien qu'il n'y a pas d'égalité des chances suivant que l'on est dans une famille riche ou dans une famille noire pauvre. Donc voilà, c'est vraiment un film remarquable avec un formidable Anthony Hopkins, figure de grand-père très bienveillant et très chaleureux. Donc vraiment, moi, c'est mon coup de cœur. J'ai aussi, j'aurais quand même cité EO, quand même, Ian, un portrait d'Olan par le Polonais Jerzy Skolimowski, qui est un véritable ovni et qui fait aussi des ravages dans les rangs cinéphiles, en tout cas si l'on en croit Twitter, qui vraiment, c'est un film incroyable. Et vous, Elisabeth ?
Et moi, eh bien, j'aime beaucoup Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechin. Voilà, je trouve que dans la veine Roubaix, une fois de plus, évidemment, Arnaud Desplechin revient sur sa famille, retourne dans l'appartement familial de Roubaix. Alors évidemment, tout le monde a vieilli hein, depuis Rois et Reines. Au tout début du film, les parents ont un accident, ils se retrouvent aux portes de la mort. Et donc, c'est un peu la croisée des chemins pour un frère et une sœur. Le frère, c'est Melville Poupeau. La sœur, c'est Marion Cotillard. Tous deux sont de grands artistes. Lui est un écrivain reconnu. Elle, c'est une star, entre autres, de la scène théâtrale. Et donc, ils se haïssent d'une haine géante, mythologique. Et à l'occasion, justement, de l'hospitalisation des parents, ils vont être obligés de se retrouver. Voilà, c'est un très, très grand Desplechin.
Voilà, on en dira plus hein, sur cette compétition, évidemment. Samedi prochain, ainsi s'achèvent tous les cinémas du monde. Merci à Vakaen.
Merci beaucoup.
Merci Paolo Moretti.
Merci à vous.
La semaine de la critique s'achèvera jeudi prochain, le 26 mai, et la quinzaine le lendemain, le vendredi. Et évidemment, nous en reparlerons aussi. tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré.
Et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard, à la technique Richard Rifonneau.
On se donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma, pour notre émission Bilan à quelques heures de la clôture. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde sur RFI.